C'est une illustration cette fois de l'asymétrie d'information, puisque moi je n'ai pas l'image sur l'écran. Vous, vous avez l'image. Donc, on va essayer de se débrouiller comme ça. Alors, pour vous qui avez l'image, vous avez peut-être remarqué que j'avais légèrement ajusté le titre par rapport à celui qui était prévu sur le programme. J'ai en effet souhaité traiter de la question de la régulation financière dans un cadre un peu plus large, qui est celui des liens entre asymétrie d'information, aléas moraux et crise financière. Pour deux raisons. La première, c'est que les notions d'asymétrie d'information, d'aléa moraux, de sélection adverse ont été intégrées dans le programme de première, sont reprises dans le programme de terminale et me paraissent des notions absolument fondamentales. La seconde, c'est parce que depuis que j'avais donné le premier titre qui était du G20 de Pittsburgh au G20 de Cannes, quelles avancées en matière de régulation, il y a eu le dénouement, en tout cas sous son aspect technique de la crise grecque. En tout cas, il y a eu un plan de restructuration qui a été mis en place et je voulais vous parler de ce plan. Voilà. Donc, j'ai organisé mon exposé en deux parties. Une première partie sur la crise grecque, mais j'ai une approche qui est résolument microéconomique, c'est-à-dire un peu technique probablement, parce que je crois également fondamentalement que les deux crises, d'ailleurs, aussi bien la crise dite des subprimes 2007-2008 que la crise grecque, ces deux crises sont avant tout le produit de la multiplication des comportements d'aléas moraux et de la défaillance de la régulation plutôt que de des équilibres macroéconomiques qui ont certes constitué un contexte favorable, mais je crois vraiment aujourd'hui que si on veut comprendre les deux dernières crises, il faut avoir un œil absolument microéconomique. Donc mon exposé sera technique, mais je crois que c'est extrêmement important. Donc premier thème, je reviendrai sur la crise grecque, donc du swap de devises de Goldman Sachs, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Goldman est à l'origine de la dissimulation d'une partie de la dette grecque qui a permis à la Grèce en fait d'être proche des indicateurs qui lui permettaient de rentrer dans la zone euro, du respect des indicateurs, et puis ensuite je vous parlerai du sujet initial qui était quelles avancées en matière de régulation depuis le G20 de Pittsburgh. Alors, le fameux swap de Goldman Sachs. La Grèce était endettée en dollars et en yens avant qu'elle ne rentre dans la zone euro. Son endettement était principalement en dollars et en yens parce que trouver les investisseurs en drachmes, c'était un peu plus difficile. Et donc, ils avaient une dette en dollars et en yens. Et puis, Goldman Sachs est arrivé vers eux en 2001-2002 en leur disant « Écoutez, on pourrait vous proposer de transformer de manière instantanée votre dette en dollars et en yens, en tout cas partiellement, en une dette en euros. Et nous avons un instrument pour ça qui s'appelle le swap de devises. » Alors tout de suite, quand on parle d'asymétrie d'information, vous voyez que la swap de devises, ça ne parle pas nécessairement à tout le monde. Qu'est-ce que c'est qu'un swap de devises? Déjà, le mot swap qui presque devient un nom commun. Je pense que dans 10 ans, quand on refera les programmes, ce sera dans les notions ou dans le swap. On en a parlé récemment justement sur l'accord d'échange de la dette grecque que certains ont même appelé, à juste titre, un swap. Un swap, c'est un contrat d'échange de flux futurs avec une même contrepartie. Dès lors que, avec une même contrepartie, vous lui dites, vous décidez d'échanger des flux dans le futur, vous faites avec elle ce que l'on appelle un swap. Et qu'est-ce que l'on peut s'échanger dans le futur? Eh bien, différents types de flux, et selon les flux que vous allez échanger, les swaps porteront des noms différents. Alors, le swap le plus traité dans le monde, c'est ce qu'on appelle le swap de taux d'intérêt. Vous êtes une entreprise, vous êtes endetté à taux variable, par exemple 10 ans, avec une référence Euribor 6 mois. C'est-à-dire que tous les 6 mois, vous payez un taux d'intérêt qui est indexé sur l'Euribor 6 mois, donc coté sur le marché monétaire, que vous observez. Bon. Et puis, vous vous dites, tiens, je suis un peu inquiet parce que je crains que les taux d'intérêt 6 mois, euros, ne remontent. Si c'est votre crainte, vous avez envie de passer évidemment à taux fixe pour ne pas supporter la hausse des taux d'intérêt court terme. Comment vous pouvez faire? Vous pouvez aller voir votre banquier, aller discuter avec lui pour transformer un endettement variable en endettement fixe. Bon courage, vous pourrez le faire une fois et puis ce sera très long. Mais une autre solution, c'est que vous gardiez votre dette dans votre bilan, une dette à taux variable. Vous allez voir votre banque et vous lui dites « je vais faire avec toi un swap par lequel je vais te payer pendant 10 ans chaque année un taux fixe, par exemple 4% par an, si c'est le taux de swap, le taux fixe, et puis vous, banquier, puisque moi je vous paye 4%, vous me paierez le taux d'intérêt variable, le Euribor, observé tous les 6 mois. Ça s'appelle un swap de taux. Ce morceau-là, il va être ce qu'on appelle hors bilan, Donc c'est un échange de flux d'intérêt pendant 10 ans. Il n'y a pas d'échange de capital parce que finalement c'est juste l'échange de flux d'intérêt. Mais si vous ajoutez ce swap de taux à votre dette, sur votre dette vous continuez de payer le RIBOR, dans le swap vous le recevez, donc ça s'annule, et vous vous retrouvez endetté taux fixe. Donc en 30 secondes, le swap est une technique qui vous permet de passer d'un endettement taux variable à taux fixe ou taux fixe taux variable. Ça c'est ce qu'on appelle le swap de taux. Je vais vous parler du swap de devises parce que c'est celui qui est concerné par Goldman. Et si on veut comprendre le début de la crise grecque, il faut comprendre ce qui s'est passé avec Goldman Sachs. Il y a aussi les swaps de matières premières. Air France est très connue pour avoir fait ça. Le pétrole était aux alentours de $160 le baril. Et le trésorier a pris peur en disant on pourrait toucher 200, 300. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie de fixer aujourd'hui le prix fixe du baril que je paierai pendant les 5 années qui viennent. Tous les mois, je veux payer un prix fixe. On est à 160, je veux bloquer aujourd'hui un prix fixe de baril. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait un swap de matières premières, ça s'appelle un swap de pétrole, par lequel vous contactez BNP Paribas et vous lui dites je te paierai tous les mois $160. Et toi, tous les mois, toi, banque, tu me paieras le prix observé sur le marché. La référence, le spot, je ne sais où. Imaginons au premier mois que le baril ait atteint $200. Eh bien, à ce moment-là, vous payez à la banque 160, vous recevez d'elle 200, c'est le contrat de swap, donc vous touchez 40 en net, et vous achetez, vous, Air France, votre baril à $200. $200 moins 40, ça vous fait 160. Le mois d'après, le baril est à 300. Dans le swap, vous gagnez $140. Vous payez sur le marché $300 le baril, moins 140 égale 160. Bref, c'est une technique qui permet de passer, là encore, d'un achat de matières premières, ici de pétrole, à prix variable tous les mois, à un prix fixe. Donc, swap de matières premières. Je ne vous parlerai pas des swaps de défaut, les fameux CDS. Qu'est-ce que c'est qu'un CDS? C'est la même chose, c'est un échange de flux. Vous allez voir, vous avez des obligations grecques, et vous dites, je suis un peu inquiet, c'était il y a quand même quelques années, je suis un peu inquiet, et je voudrais en fait me protéger. Je vais te payer à toi, Société Générale, chaque mois ou chaque semestre, un flux d'intérêt, qui va être le prix du swap, par exemple 2%, par an, mettons, et puis, if défaut, s'il y a un défaut, sur les 5 ans de mon swap, eh bien, tu me paieras, par exemple, le montant nominal de ma dette. Ça, c'est un swap. Vous échangez un flux que vous payez à la banque contre un flux conditionnel qui est le nominal de ce que vous garantissez. Ça s'appelle un swap de défaut. Alors, il y a plein d'autres swaps. Hein. Il y a même, je sais que Jacques Le Cacheux a fait hier une conférence sur l'économie climatique. Parmi les dérivés climatiques, vous avez aussi les swaps climatiques, c'est-à-dire que... Vous pouvez fixer aujourd'hui le prix auquel vous achèterez la température, le niveau des précipitations dans le futur. Je ne rentre pas dans le détail parce que sinon je vais finir mon exposé sans pas du tout parler de mon sujet. Donc je reviens au sujet. Les swaps de devises. Enfin, c'est juste pour vous dire ce que c'est qu'un swap et avoir bien l'idée que c'est juste un échange de flux. Bon, alors, un swap de devises, c'est quoi? Donc vous êtes la Grèce, vous êtes endetté en dollars. Mettons, vous êtes endetté sur $100. Okay. Bon, le montant de la dette grecque, c'est $350 milliards. On va dire 100 pour comprendre le sujet. Vous allez voir Goldman. C'est plutôt Goldman qui va vous voir d'ailleurs. Il vous dit, tiens, tu pourrais faire un swap avec moi. C'est-à-dire, en fait, la Grèce va emprunter 100 millions d'euros à Goldman Sachs. 100 millions. Donc, reçoit 100 millions d'euros. Paye des intérêts chaque année sur l'euro. Imaginons que les taux d'intérêt euro soient de 3% à 10 ans. La Grèce s'engage donc à verser 3%, donc 3 millions d'euros à Goldman Sachs chaque année. Et dans 10 ans, évidemment, la Grèce remboursera 100 millions d'euros. Ça, c'est un emprunt en euros, c'est pas un swap. Sauf qu'avec la même contrepartie, vous dites à Goldman, je t'emprunte 100 millions d'euros et je te prête 100 millions de dollars. À l'époque, quand ça a été fait, l'euro-dollar cotait 1, c'est facile. 1 euro égale 1 dollar. Donc, empruntez 100 millions d'euros et vous prêtez la contre-valeur en dollars, c'est-à-dire 100 millions de dollars. Je t'emprunte 100 millions d'euros et je te prête, dans une autre devise, la contre-valeur en dollars, c'est-à-dire 100 millions de dollars. Et je te prête 100 millions. Donc, toi, Goldman Sachs, tu me verseras chaque année, pendant 10 ans, le taux d'intérêt dollar, c'est-à-dire, par exemple, 4%. Et dans 10 ans, eh bien, évidemment, tu me rembourseras les 100 millions de dollars. Ça, c'est un swap. C'est un prêt, un emprunt en euros par la Grèce et un prêt en dollars. Je continue, je vous ai dit que ce serait un peu technique, mais c'est presque fini. Et après, il y aura un petit schéma. L'échange de capital au départ, La Grèce emprunte 100 millions à Goldman Sachs et lui prête la contre-valeur au cours spot, c'est-à-dire 100 millions de dollars. C'est pas la peine, puisque 100 millions d'euros égale 100 millions de dollars en 2002, au moment où a été fait ce fameux swap qui, entre nous, portait sur 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars. Donc en fait, ce swap, il n'y a pas d'échange de capital dans un swap de devises, puisqu'en fait, les deux montants sont équivalents. Donc il y a juste un flux d'intérêt. Chaque année, la Grèce paye 3% de 100 millions d'euros, ce qu'elle a emprunté, donc elle est bien endettée en euros. Bravo Goldman Sachs. Et puis elle reçoit de Goldman 4% en dollars, c'est-à-dire 4 millions de dollars. Ce qui lui permet de payer les intérêts sur sa dette, puisque n'oubliez pas que la Grèce est endettée en dollars à cette époque. Donc elle est endettée, elle paye 4% aux investisseurs, elle reçoit de Goldman 4%, ça fait zéro, et elle se retrouve endettée en euros. À l'échéance, elle recevra de Goldman 100 millions de dollars, elle remboursera sa dette en dollars, et elle devra rembourser 100 millions d'euros. Elle a bien donc, grâce à ce swap de devises, transformé en une seconde un endettement de 10 milliards de dollars en un endettement de 10 milliards d'euros. Ça lui a pris 10 secondes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sa dette reste, il y a toujours sa dette en dollars, et elle a fait un swap de devises qui lui permet, quand vous additionnez les deux, de passer endetté en euros. Très bien, parfait. Mais Goldman n'est pas juste venu pour vendre un swap de devises. Vous voyez que ça ne sert tellement à rien, là, ce qu'on a fait, puisque je n'utilise absolument pas ça, mais bon, c'est pas grave. C'est le côté un peu brownien. Je reviens sur le sujet. Goldman n'est pas juste venu pour dire, tiens, passe ta dette de dollars en euros. Parce que Goldman se doutait qu'il y avait des petits problèmes sur le niveau de l'endettement de la Grèce. On était un peu au-dessus des fameux ratios dette sur PIB. On était à 100 de mémoire, 103, 104%. Il fallait un peu baisser ça. Alors il dit, mais écoute, ce qu'on va faire, c'est que l'échange de capital initial qui, dans tous les swaps de devises normaux, n'existe pas, puisque tu empruntes 100 millions d'euros et tu prêtes 100 millions de dollars à la même contrepartie, généralement on ne fait rien. Eh bien, on va faire cet échange sur la base d'un cours d'euro-dollar plus bas, c'est-à-dire d'il y a un an. Et à ce moment-là, il y a un an, si vous vous souvenez, je vais peut-être utiliser, parce que moi je ne vois pas l'écran, ce qui en effet ne facilite pas le travail, voilà, ça c'est l'euro-dollar. En 2002, au moment où a été fait, en juillet 2002, le swap, on était 1 euro égale 1 dollar, et Goldman a proposé de faire un swap en échangeant le capital initial sur la base du cours d'il y a un an, c'est-à-dire 0,90. 1 euro égale 0,90 dollars. Je vous rappelle qu'on était allé jusqu'à 0,82. Enfin, il y a un an, 0,90. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un dollar égale 1,10 euros à peu près. Donc dans le swap, au lieu d'emprunter 100 millions, je parle de la Grèce, et de prêter 100 millions de dollars, eh bien en fait, vous empruntez 110 millions et vous prêtez 100 millions de dollars. Un faux cours qui était le cours il y a un an, c'est pas le vrai cours. Et à ce moment-là, en réalité, aujourd'hui, 110 millions d'euros ne sont pas égaux à 100 millions de dollars. Donc Goldman Sachs doit verser ce qu'on appelle une soult, c'est-à-dire un montant initial de 10 millions. Normalement, Goldman, les deux flux de capital s'annulent si la Grèce emprunte 100 millions d'euros et prête 100 millions de dollars. Là, elle reçoit 110 millions d'euros et elle prête 100 millions de dollars. Elle reçoit 10 millions de trop. Donc en fait, Goldman prête 10 millions à la Grèce par le swap. Évidemment, ces 10 millions seront remboursés par la Grèce avec les intérêts correspondants à l'échéance du swap, par exemple, dans 5 ans. Alors, je vous montre ici avec un graphe. Ce ne sera jamais plus technique que ça. Donc, la Grèce est endettée, par exemple, en 2002, sur 100... Mais c'est très important de comprendre comment ça s'est fait. Aléa, asymétrie d'information et aléa morale. Vous voyez, c'est, si vous n'êtes pas complètement maître de ce que je viens d'expliquer, bon, d'abord, je n'ai pas été très clair, mais ensuite, ce n'est pas très grave. C'est une belle illustration de l'asymétrie d'information entre les utilisateurs de produits, les pauvres gens du trésor grec qui ont fait l'ENA belge, et puis les gens dérivés du desk Goldman Sachs qui viennent leur fourguer leur swap de devise avec upfront payment, comme on dit dans les endroits chic des banques d'investissement. Bon, vous êtes endetté, donc vous, à 4% en dollars, vous êtes en 2002. Goldman vient vous voir, il vous propose un swap. Alors, le swap normal, il est là. Vous empruntez 100 millions d'euros, donc vous recevez la flèche vers le bas, et vous payez 100 millions de dollars, vous payez les flux d'intérêt. Ça, c'est un swap normal qui vous permet de vous retrouver endetté en euros en 3 secondes. C'est le swap normal. Ce qu'a proposé Goldman, c'est, si vous voyez en bas, de non pas recevoir 100 millions dans le swap, mais d'emprunter 110 millions et de rembourser à la fin 112 millions, c'est-à-dire en effet, vous ajoutez les intérêts. Et donc ça, finalement, ça revient. Hops, voilà, le swap de devise de Goldman s'accompagne du versement d'une soulte de 10 millions d'euros. Au lieu d'emprunter 100, il reçoit 110. Mais à quoi le flux de capital dans 5 ans? De 12 euros. Enfin, dans 5 ans, ce ne seront pas les mêmes que son gouvernement. Sur un swap de nominal 10 milliards de dollars, je rappelle que c'est effet sur 10 milliards, si vous avez bien suivi, ça veut dire que grâce au swap de devise, Goldman donne tout de suite 10%, c'est-à-dire 1 milliard. Alors, même si vous ne parlez pas anglais, j'ai mis en rouge, c'est un texte de je ne sais quel journal technique anglo-saxon, où on vous dit que le swap a été fait sur 10 milliards, ce qui a permis à la Grèce instantanément de recevoir 1 milliard d'euros en fait, enfin ou de dollars, peu importe, ce qu'on était sur une parité 1. Voilà. Donc voilà le swap. Donc quand on parle d'asymétrie d'information entre ceux qui fabriquent les produits et ceux qui utilisent les produits. Alors, il y a le merveilleux exemple des subprimes, bien sûr, mais ça aussi, c'est un très bel exemple. C'est-à-dire qu'en fait, alors cet exemple, d'ailleurs, n'est pas au passage nouveau, parce que en Belgique, il y a début des années 90, le Trésor belge avait fait la même chose. Le Trésor belge était endetté en francs belges. Et puis un haut fonctionnaire du Trésor belge, sortant lui aussi de l'ENA belge, avait dit: j'ai appris les swaps de devises dans mon cours, et dans un swap de devises, je peux changer la nature de ma dette, enfin la devise d'endettement en 3 secondes. J'appelle ma banque, je dis: je veux faire un swap de devises, donc vous êtes endetté franc belge. Et il s'était aperçu, cet haut fonctionnaire de l'ENA belge, que les taux d'intérêt sur le Deutsche Mark et sur le franc suisse étaient plus bas que les taux d'intérêt sur le franc belge. Alors, il dit: pourquoi payer 8% de taux d'intérêt sur ma dette en franc belge, alors que si j'étais endetté en Deutsche Mark, je ne paierais que 4% à peu près à l'époque. 4% de différentiel de taux, ça réduit le déficit, c'est quand même un truc super. Il appelle sa banque et il fait un swap de devise par lequel il reçoit des flux d'intérêt en franc belge. Donc, comme ça, ses flux d'intérêt sont éliminés. Il les paye sur sa dette en francs belges, mais il les reçoit dans le swap. Et il paye du Deutsche Mark. Très gentil. Donc, il paye 4%. Et donc, en fait, au lieu de payer 8%, il paye que 4%. Donc, le déficit, les frais financiers, d'accord. Tout va bien. Et quand on parle de dissimulation, d'aléa morale, d'asymétrie d'information. Sauf que dans un swap de devise, je ne vais pas insister, mais à la fin, il y a un échange de capital. Et à la fin, en fait, si le Mark à monter de plus que le différentiel des taux contre franc belge, eh bien, vous pouvez perdre évidemment beaucoup plus que le gain que vous avez réalisé. La parité des taux d'intérêt de Keynes, que chacun connaît, nous dit que précisément la variation anticipée du cours de change est égale au différentiel cumulé des taux d'intérêt. Donc si dans une devise vous payez 4% Deutsche Mark au lieu de payer 8% en franc belge, c'est que dans un an, le Mark aura dû s'apprécier de 4%. Et dans 5 ans, vous cumulez tout ça. Évidemment, il y a eu septembre 92, c'est-à-dire en fait la sortie de la livre sterling et de la lire italienne du système monétaire européen, un réaménagement de parité, le Mark a explosé contre franc belge, et en fait, la perte en change a été largement supérieure au gain cumulé de différentiel de taux. C'est une des belles illustrations, là encore, de l'utilisation des swaps de devises. C'est aussi un peu de l'aléa moral, c'est-à-dire qu'à court terme, je ne supporte pas les conséquences collectives de ma décision qui maximise mon utilité. Moi, je suis au fonctionnaire belge, j'arrive pendant 1 an, 2 ans à réduire le montant des frais financiers, je suis considéré comme une star de la finance. Maintenant, dans 5 ans, au moment où il faudra rembourser dans le swap de devises, le montant qui sera en Deutsche Mark, je ne serai plus là, parce que j'aurai été nommé à des fonctions supérieures pour être un grand financier. C'est le pauvre qui va arriver, qui va dire bon. Voilà, et donc normalement, vous savez bien qu'un swap de devise, l'espérance de gain est nulle, puisque ce que vous gagnez en différentiel de taux, c'est Keynes qui nous l'apprend, vous devez le perdre évidemment en change. Donc les swaps de devise, c'est des instruments qui sont très utilisés, et je pense, vous voyez, que quand on parle d'asymétrie d'information, ce qu'a fait Goldman Sachs est vraiment une opération qui pour moi illustre ce qu'on appelle l'aléa morale. Alors la définition d'Adam Smith de l'aléa morale, hein, définition sur un peu. Bon, moi j'aime bien celle d'Adam Smith. Hop, c'est là. Il dit qu'en fait l'aléa morale, c'est une situation dans laquelle chaque agent maximise son utilité individuelle. Ben, Goldman, c'est sûr. Je ne vais pas nous donner un chiffre. Vous savez combien Goldman a touché? Juste, vous réfléchissez, puis après je vous donne la réponse. Combien ils ont touché pour faire ce swap sur 10 milliards de dollars et leur dire: faites un swap par lequel je vous donne aujourd'hui 1 milliard et puis vous me les rembourserez dans 5 ans, etc. Ils ont touché 200 millions de dollars. 200 millions de dollars. pour activité de conseil, risque de crédit, parce que oui, mais attendez, dans ce swap, on vous a prêté, finalement, c'est un prêt déguisé, 1 milliard, donc bon, on a un risque, si vous ne remboursez pas, 200 millions. D'accord ? Donc quand on parle d'adhérence, la définition d'Adam Smith, c'est maximisation de l'utilité individuelle par des agents qui ne supportent pas les conséquences collectives. Ça, je crois que les conséquences de la crise grecque ne sont pas tout à fait supportées par Goldman Sachs, comme vous avez bien pu comprendre, et en particulier par ceux qui ont monté cette opération. Bon, le banquier prestidigitateur. Voilà. Alors, du swap magique à la crise. Alors évidemment, la crise n'est pas liée uniquement à ce swap qui a en fait permis de dissimuler une partie de l'endettement de la Grèce et de permettre à la Grèce de rentrer dans la zone euro alors que probablement elle n'était pas dans une zone monétaire optimale. Mais bon, ça a été fait. Alors, la crise. Deuxième asymétrie d'information. À part vous, croyez-vous qu'il y ait beaucoup de gens qui aient compris les modalités, voire même le principe du fameux accord sur la Grèce, du fameux plan de restructuration? Je crois que, à part vous, pas grand monde. Hein. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le 21 juillet 2011, il y avait eu déjà une réunion entre les membres de l'Eurogroupe et le Trésor grec pour précisément trouver un plan de résolution, c'est-à-dire un plan de restructuration de la dette. Un accord avait été signé, historique en sortant, c'était historique. Accord historique par lequel les créanciers privés de la Grèce, qui étaient représentés par International Institute of Finance, qui est en fait le lobby bancaire, qui est dirigé par Joseph Ackermann, le président de Deutsche Bank, ils avaient négocié le 21 juillet et ils s'étaient mis d'accord, accord historique, les créanciers privés, essentiellement les banques, acceptent d'effacer, alors, à l'époque, 20% du nominal de leur dette vis-à-vis de la Grèce, sur 50% de leur dette. Ça faisait que 10% au passage, d'accord ? Mais c'est un accord historique. Et puis cet accord historique n'a jamais vu le jour, il n'a jamais été appliqué. Et puis il y a eu un autre accord le 26 octobre. Vous avez peut-être les images en tête à la télévision, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, sortant à 4h du matin, exténué, je pense ni l'un ni l'autre n'ayant rien du tout compris ce qui se passait, mais techniquement en tout cas, disant nous avons trouvé un accord par lequel la Grèce, enfin les créanciers privés ont accepté d'effacer à l'époque 50% de la dette grecque, enfin de 50% par les créanciers privés. Bon, alors déjà le lendemain matin, les banquiers s'amusaient parce qu'ils se disaient, attendez, nous on a dit dans l'accord, qui est en anglais, je suis désolé, haircut. Un haircut, ça veut dire un effacement, enfin ça veut dire une dépréciation, mais effacer la dette, soit vous effacez le nominal, c'est-à-dire en gros, vous devez 100 à quelqu'un et vous lui dites, je ne te paierai à la fin que 50. Je te paierai peut-être les intérêts d'abord, mais bon, ça c'est ce qu'on appelle l'effacement de nominal. Mais il y a aussi un autre effacement, et les banquiers ont dit, non, on n'a jamais dit effacement de nominal. Ce qui est en fait la dépréciation dans les bilans des banques de la valeur des titres grecs. C'est-à-dire, vous devez être remboursé 100, au départ vous avez bien valorisé ça au départ 100, et puis vous acceptez que ça vaut que 50, parce que la probabilité que vous soyez remboursé, elle est très faible. C'est complètement différent. Ça c'est une dépréciation. L'effet est le même, c'est une dépréciation, mais sauf que dans un cas, il y a pas dans le premier cas, il y a effacement de nominal, donc vous rembourserez la moitié, enfin on vous remboursera la moitié, et dans l'autre cas, il y a simplement une dépréciation. Et donc les banquiers ont commencé à dire, c'est pas du tout un effacement de nominal, c'est bon. Puis après, les chiffres ont fusé. On a parlé de 50%, de 75%, de plus personne ne comprenait rien. Cet accord d'ailleurs ne voyant le jour que si, au départ, 90% des créanciers privés acceptaient précisément cet accord. Bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, tout récemment, c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler, il y a quelques semaines, un accord a définitivement été scellé. Je vous signale que l'accord Sarkozy-Merkel, c'était le 26 octobre, et que l'accord définitif, c'était, je ne sais plus combien de mars, 9, 10, 12 mars. Donc, ça veut dire qu'il a fallu presque 5 mois entre la décision politique et la mise en place de l'accord. Qui a compris l'accord ? Pas grand-chose, pas grand monde. Alors, c'est quoi cet accord ? La République grecque Ça, je vous ai donné le texte dans son état naturel. Donc, en fait, dit aux propriétaires, aux détenteurs de titres obligataires. Donc, ça s'adresse à ceux qui détiennent des obligations émises par le trésor grec, l'équivalent de nos OAT. Donc, d'apporter leurs obligations. Et ils vont échanger donc pour 1000 dollars, d'accord ? Donc vous apportez vos obligations qui devraient être remboursées 1000 dollars, et vous allez recevoir 3 trucs à la place. C'est sympathique. Vous donnez une oblige et on vous en donne 3. Pas mal. La première, si vous regardez bien, pour each 1000 euros de face amount, de valeur nominale, donc vous apportez vos obliges, vous dites que je devrais être remboursé dans 10 ans 1000, vous allez recevoir une obligation de maturité, alors entre 15 et 30 ans, je ne rentre pas dans les détails, de 315. Donc ça veut dire qu'en fait, votre obligation qui devait être remboursée 1000, eh ben, on vous en donne une autre, on va en donner 3, mais une qui vous donnera à la fin que 315. Ça, c'est de façon nominale. Mais attendez, c'est pas tout, parce qu'on va vous donner un autre petit cadeau. On va vous donner un deuxième titre, alors qu'il a été mis par le FESF, c'est-à-dire en fait le fameux fonds de stabilité européen. Et là, en fait, c'est un titre qui a la garantie du FESF. C'est-à-dire vous êtes sûr d'être remboursé, parce que quand vous apportez votre oblige et que la Grèce vous en donne une autre, de maturité 30 ans, vous n'êtes pas sûr que vous toucherez les 315, vous avez donné 1000, on va vous dire, tiens, je vous donnerai 315 dans 30 ans, ils ne sont pas sûrs d'être obtenus. Là, en fait, on vous a fait un cadeau, on vous a remis pour 150, voilà, c'est en bas, agréé, des notes, enfin des titres émis par le FESF. Donc ceux-là sont garantis. Donc vous êtes sûr que quand vous remettez 1000, on va vous donner 315 de dette grecque, 150 de dettes émises par le FESF. Alors ce qui est incroyable quand même, c'est que le FESF a prêté à la Grèce le montant correspondant, c'est-à-dire les 150, pour qu'il puisse acheter des titres qu'a émis le FESF et les donner aux créanciers privés. Enfin bref. Et puis on vous donne également 315, et c'est vraiment un cadeau. Alors là, c'est assez. Ça s'appelle des GDP Linked Securities. C'est des titres dont le flux de paiement, ce que vous allez toucher, est indexé sur le produit intérieur brut de la Grèce. Alors quand vous lisez dans les détails, on vous dit qu'on vous donnera pour 1000 pour 100, on vous donnera 1% de ce que vous avez, sous l'hypothèse que le PNB ou le PIB de la Grèce dépasse un certain seuil qui n'est toujours pas fixé d'ailleurs au passage. Je pourrais vous montrer le texte, c'est-à-dire que ce titre-là, on ne sait même pas ce que c'est. Bon, enfin, c'est en fait une option qui vous permet d'avoir 1% du nominal, uniquement 1, c'est plafonné, si le taux de croissance de la Grèce, qui est de moins je ne sais pas combien, est supérieur à plus quelque chose. Donc de toute façon, ça ne coûte pas très cher au trésor grec d'émettre ça. Bon, j'en ai mettre beaucoup plus. Voilà les trois cadeaux. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes plus lisibles ? Vous apportez vos obliques, vous êtes BNP Paribas, vous aviez un paquet de dettes grecques, encore, vous n'avez pas tout vendu, vous en restez, vous l'apportez au trésor grec. Vous en apportez 100 de nominal, ça veut dire des titres qui sont remboursés sans l'échéance. On vous donne 31,5, donc c'était ce que j'ai dit tout à l'heure, pour 1000, eux ils disaient 1000 et 315, donc 31,5% d'une obligation de maturité comprise entre 11 et 30 ans, et avec un coupon bas, évidemment, entre 2 et 4,3%. C'est-à-dire 2% au départ, parce que la Grèce, il faut l'aider, il ne faut pas qu'elle ait des frais financiers trop élevés. Puis à la fin, quand on va arriver vers les 30 ans, eh bien vous recevrez un coupon, si vous recevez quelque chose, qui sera de 4,3%. Donc, vous apportez 100, on vous donne 31,5 avec un petit coupon. D'accord ? Donc, c'est pas terrible, comme ça ne vaut pas grand-chose ce truc-là. D'accord ? Bon, ensuite, on vous donne 15, c'est les 150 dont je parlais tout à l'heure, de titres de maturité inférieure à 2 ans émis par le FESF. Alors ça, c'est sympathique, c'est le cadeau, le vrai cadeau. C'est-à-dire, vous remettez 100, vous avez un titre à 2 ans émis par le FESF, donc c'est le FESF qui vous remboursera. On peut espérer que le FESF, dans 2 ans, il y sera toujours. Et donc là, vous êtes sûr, quand vous remettez vos 100, vous toucherez 15. Vous toucherez peut-être 31,5 sur les autres obliques qu'on vous a remis dans 30 ans. Bon. Et puis vous avez 31,5 d'options sur le taux de croissance du PIB grec. Et j'ai vu d'ailleurs dans les dossiers techniques que personne n'avait osé évaluer la valeur de ces titres et qui de toute façon est aujourd'hui assez proche de zéro. Bon. Mais enfin, on vous donne quand même sur un nominal de 31,5. Ça, c'est joli. Bon. Ici, si vous regardez la déclaration donc, du PSI, donc du fameux contrat de restructuration de la dette grecque, donc finalement, on dit qu'il y a une réduction de nominal de 53,5%, Si vous faites un petit calcul, vous remettez 100, on vous donne une oblique de nominal 31,5, donc vous serez remboursé, si vous êtes remboursé, 31,5, plus un cadeau qui est un titre à 2 ans émis par le FESF de 15. Donc si vous faites le total, 31,5 plus 15, ça vous fait 46,5, donc vous avez des papiers qui valent 46,5, et donc c'est bien un effacement nominal de 53,5%. Donc le seul truc juste est de dire que les créanciers privés ont accepté un effacement de nominal de 53,5%. Vous remettez 100, vous avez une oblique 31,5 et une autre, un titre à 2 ans, de 15, le total 46,5, vous avez effacé 53,5 de nominal. Bien, le taux coupon, c'est le deuxième paragraphe, varie donc de 2% à 4,3%, je l'avais dit, donc il y a tous les détails. Bon, voilà le plan grec. Alors, juste, c'est pas possible ça. Déjà, il y a de l'anglais, mais il y a des trucs. Quand vous recevez, puis après c'est fini sur les grecs, mais asymétrie d'information, vous voyez, les pauvres investisseurs, ce qu'ils comprennent vraiment de ce qui se passe aujourd'hui. Bon, on vous remet un titre de valeur 31,5, avec un coupon de 2%, 3%, etc. Quel est son prix aujourd'hui? Vous voyez dire, ça vaut 31,5%. Puisque j'avais 100 avant, j'ai plus de 31,5 à la fin, ça ne vaut même pas ça. Ça ne vaut pas ça, parce que vous allez toucher un coupon de 2%, alors qu'en fait, il y a un risque qui est encore très élevé sur ces obligations, et donc si vous les fondez sur le marché, elles ne valent certainement pas 31,5. Combien elles valent? C'est un tout petit calcul de principe, s'il n'y aura pas d'interrogation écrite. Regardez. Ça c'est une oblique, hein. C'est la fameuse oblique 30 ans dont je parlais que vous recevez. La première année, vous allez toucher 2% de coupon. C'est la colonne 1, 2, 3, 4 ou 5. 2% d'un nominal de 31,5. Donc vous faites 2% de 31,5 et vous allez toucher 0,63. D'accord ? Dans 2 ans, vous allez toucher 0,63 aussi. 1% de. Enfin, 31,5. Au départ, ça, maintenant, c'est 31,5. Ensuite, le coupon passe à 3%. Vous allez toucher 3% de 31,5, ça fait 0,95. Et puis, vous voyez que la structure des coupons de la dette, des nouveaux titres grecs, est croissante. Hein, on paye de plus en plus. Voilà. Et ensuite, vous allez actualiser. C'est la colonne DF. C'est quoi le prix d'une oblique? C'est la somme actualisée des cash flows futurs, des flux futurs, donc des coupons et du nominal à la fin. Le nominal à la fin, c'est 31,5. Quand vous actualisez, à quel taux vous actualisez? Ici, ça a été fait en actualisant à 12%. C'est-à-dire que celui qui a de la dette grecque, il dit, moi, ce que j'attends, c'est un taux d'intérêt de 12%. Parce que mon truc est risqué. Je ne vais pas actualiser à 2. C'est-à-dire que ce n'est pas un taux sans risque, ni au taux allemand. Enfin, 2, c'est le taux allemand. Je vais actualiser un taux qui intègre une prime de risque. 12. Si je mets 12, eh bien, vous faites un petit calcul à la fin, vous trouvez que le titre, il vaut 10,85. Donc, finalement, vous voyez, quand on dit les banques ont perdu 90%, en fait, elles ont perdu en nominal 53,5, mais si elles valorisent leurs actifs en utilisant 12% de taux, alors pourquoi 12 et pas un autre? Eh bien, il y a plusieurs calculs qui ont été faits, mais je ne les ai pas mis ici, voilà. Alors, pourquoi 10,85? Pourquoi 25 ici à 12? Parce qu'il y a les fameux titres émis par le FESF pour 15, qui eux sont à coup sûr remboursés, donc qui valent 15. 15 et 10,85, c'est 25,85. Plus vous mettez de taux d'intérêt élevé, plus évidemment le prix de ce que vous avez en portefeuille bas. Voilà. Je pense que si on n'a rien compris, ou pas grand-chose, c'est une belle illustration de la symétrie d'information. Alors, je vous ai quand même mis... Et vous êtes formé, éduqué et vous formez. Donc vous imaginez. Je vous ai mis ici les taux d'intérêt quand même de la Grèce. Que vous dites pourquoi vous actualisez à 12 aujourd'hui la dette grecque. Quand vous avez, si vous regardez les taux d'intérêt, donc colonne de gauche, le bon du trésor à 3 mois de la dette grecque, c'est 4%. Donc quand vous prêtez à la Grèce à 3 mois, vous exigez un taux d'intérêt de 4. Ça va, c'est presque sans risque. C'est vrai que sur 3 mois, ils ont mis assez de rustine pour permettre à la Grèce de rembourser ses bons du trésor à 3 mois. À 6 mois, c'est un petit peu plus risqué et vous demandez 7% de taux d'intérêt. Quant à 10 ans, c'est ce que vous avez dans les portefeuilles, puisque vous avez échangé votre dette contre une dette entre 11 et 30 ans. Aujourd'hui, on demande 18% à la Grèce de taux d'intérêt. 18. C'est-à-dire que la Grèce, si elle émettait sur le marché aujourd'hui, elle émettrait à 18%. Et puis, on continue, 17, 15, 14, à 30 ans, ça vaut 15%. Donc, de toute façon, c'est assez logique que les taux d'intérêt à 30 ans soient plus bas que les taux d'intérêt à 10 ans, parce qu'en fait, si on passe 10 ans, la probabilité de défaut de la Grèce sera faible, et en fait, en réalité, donc c'est concentré sur le 10 ans, vous êtes à 18%. Voilà, bon, tout ça pour vous montrer qu'il y a à la fois de la symétrie d'information, de l'aléa moral avec le swap de dissimulation de la dette grecque, et que c'est un sujet un peu compliqué où la micro a tout son poids. Alors, j'ai 10h30, je voudrais qu'on puisse au moins parler ensemble un quart d'heure, donc je vais maintenant passer rapidement, ce sera moins technique, quoique, à la deuxième partie, qui est le G20. Voilà. Bon, pour vous rappeler, revenons sur les choses plus littéraires, que ma conviction, c'est que, bon, mes collègues macroéconomistes, quand ils ont aperçu la crise des subprimes, ils se sont répondus en disant « c'est une nouvelle crise de 29 », parce qu'ils connaissaient bien la crise de 29, et on dit « c'est pareil que 29 », etc. Bon. Moi, je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec la crise de 29, et que cette crise est avant tout, comme je l'ai déjà dit, une crise associée au comportement des individus, à la multiplication de l'aléa moral et à la défaillance du contrôle des risques et de la régulation. Et si on ne comprend pas ça, si on n'agit pas sur les comportements individuels, nous ne sommes pas à l'abri d'une crise de même nature nouvelle sur d'autres instruments. Et donc je pense que c'est important. Évidemment que le déséquilibre de la balance des paiements courants, évidemment que la politique monétaire américaine laxiste a créé un contexte favorable au développement de la première crise dite des subprimes 2007-2008, mais quand même n'oublions jamais que cette crise est née de la titrisation des crédits hypothécaires. On est en train de l'oublier. Et la titrisation de crédit hypothécaire, la titrisation, c'est en soi une illustration extraordinaire de ce qu'est l'aléa morale. Si je reprends Keynes, tu sais, l'aléa morale, c'est souvent illustré par l'assuré dans l'assurance, qui lorsqu'il est assuré, prend des risques qu'il ne prendrait pas s'il n'était pas assuré. Voilà, l'aléa morale. Quand vous ne supportez pas les conséquences de votre comportement individuel, eh bien, vous prenez des risques. Quand vous les supportez, vous n'êtes pas assuré, eh bien, à ce moment-là, vous faites un peu plus attention. C'est ça l'idée. Bon, en fait, vous allez voir que la crise que nous traversons, c'est exactement une crise de l'aléa moral. C'est-à-dire des décisions prises par les opérateurs de marché qui ne supportaient pas les conséquences défavorables de celles-ci. Alors, d'ailleurs, le G20 de Pittsburgh, qui a été un des grands G20 consacrés à la régulation et... Je pense que vous le savez tous, mais il y a un site qui s'appelle g20.org, qui est remarquable, sur lequel vous avez tous les comptes rendus de tous les G20 depuis le début de la crise. Et donc, vous pouvez vous alimenter là, c'est un truc merveilleux. Je me suis alimenté là, et que dit le G20 de Pittsburgh? C'est quand même incroyable. Parmi les recommandations, et c'est pas écrit à ma main, vous voyez bien que ça ne ressemble pas à un truc que j'ai fait moi-même, bien que si, après tout, mais en fait non. Bon, reducing the moral hazard posed by systematically important institutions. Première recommandation du G20, réduire l'aléa moral sur les marchés financiers. C'est pas réduire les déséquilibres de la balance des paiements courants, c'est pas faire en sorte que les politiques monétaires soient sur cela. C'est centré sur l'aléa moral. En parlant d'aléa moral, d'ailleurs, juste, je m'arrêterai là rapidement. Le mot en anglais, c'est moral hazard. Alors, dans beaucoup de bouquins, il y a le hasard moral, qui a un grand sens. Hein, vous dites, il y a du hasard moral, du hasard moral. Bon. Alors, non, c'est pas bien, c'est aléa moral. Moi, je n'ai toujours pas compris non plus aléa moral, parce qu'un aléa, je sais ce que c'est. Moral, je ne vois pas très bien. En quoi un aléa, c'est moral. Bon, enfin, c'est plutôt du risque moral, en fait. Hein. C'est du risque que vous prenez sans supporter les conséquences de votre décision. Hein, c'est ça, le sujet. Eh bien, c'est quand même la première recommandation du G20. La deuxième recommandation du G20, c'est reforming compensation practices, réformer les modalités de rémunération des opérateurs. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais qu'est-ce que le bonus d'un trader si ce n'est, encore une fois, une illustration de l'aléa moral. Vous prenez une décision, vous prenez une position, vous achetez, je sais pas quoi, des titres, vous achetez de la dette grecque. Vous dites, soit la dette grecque remonte, et à ce moment-là, mon bonus va être élevé, on va m'acheter une voiture avec des coussins en cuir, etc. Soit la dette grecque s'effondre. Mais si elle s'effondre, j'aurai un résultat de zéro, et comme on ne me demande pas évidemment de payer si le résultat est négatif, j'ai une situation complètement asymétrique. Si maintenant vous êtes... Qu'est-ce que c'est qu'en fait un bonus ? Il ne faut jamais oublier un truc très simple, un bonus, c'est une option d'achat. Vous voyez ce que c'est les options ? C'est les actifs financiers, j'achète le droit d'acheter, ça s'appelle un call. Eh bien un bonus, c'est une option d'achat sur votre résultat dont le prix d'exercice est zéro. C'est-à-dire, j'achète le droit d'acheter, mon résultat est zéro. Si le résultat est positif, j'achète à zéro, donc j'ai gagné le résultat. S'il est négatif, j'ai un droit en fait de l'acheter à zéro, mais négatif, je n'achète pas. Donc en fait, le bonus, c'est, sans que le DRH le sache, une option d'achat sur le résultat, une option d'achat gratuite par le trader. Et bien quand vous avez une option d'achat, le prix de l'option d'achat est fonction de la volatilité. Plus la volatilité est élevée, plus la valeur de votre contrat de bonus est élevée. Vous préférez prendre une position qui peut gagner 8000 ou perdre 8000 à une position qui peut gagner 100 ou perdre 100. C'est normal, non ? Vous êtes complètement rationnel. Parce que quand vous perdez 8000 ou 100, ce sera zéro le bonus. Si vous gagnez 8000 ou 100, ce sera le sky ou le cuir. C'est quand même pas tout à fait pareil. Et donc, en réalité, eh bien, y a un autre sujet qui est celui de la rémunération des opérateurs, qui est aussi un des leviers de l'aléa morale. C'est-à-dire, c'est clair. Troisième recommandation du G20 de Pittsburgh, réguler les marchés de gré à gré, la titrisation, les agences de rating, bien sûr, et les hedge funds. Bon, ça d'accord. Ensuite, avant-dernière recommandation, la fameuse recommandation en matière comptable de la fair value, c'est-à-dire de la juste valeur. J'évoquerai peut-être ce sujet, mais ça me paraît être un sujet aussi absolument fondamental. Et puis, balle 3 au fond, c'est mettre du capital qui soit bien adossé au risque près des institutions. Ça, balle 3, je pense, ça fait pas mal d'efforts dans ce sens. C'est une amélioration, dit le prof, parce que les banquiers ne sont pas tout à fait d'accord, par rapport à balle 2. Bon, alors ça, c'est, on l'a déjà vu. Aléa morale et titulisation. Bon, je voudrais quand même vous donner deux exemples avant qu'on puisse se parler. Deux exemples. Titrisation et aléa morale, même si vous considérez la titrisation. Bon, je reviens sur la crise des subprimes parce qu'au fond, c'est un truc tellement simple à expliquer après. Un prêt subprime hypothécaire, c'est environ un prêt de 100 000 dollars. Donc vous voyez que ce n'était pas un prêt qui nous permettait d'acheter une maison à Central Park, c'était vraiment destiné à des ménages pauvres, accès à la propriété, le rêve. Bon, 100 000 dollars. Avec une structure particulière, donc là il n'y a pas de swap de devise, c'était pendant 2 ans. On vous attire par un teaser rate à 2%, sympathique. Et puis ensuite, eh bien, vous serez indexé sur le Libor 6 mois, par exemple. C'est-à-dire vous paierez un taux variable pendant les 28 années restantes. 28 années. Mais comme on vous a fait un taux d'intérêt de 2% pendant les 2 premières années, et qu'en plus vous êtes un très mauvais risque, parce que vous êtes pauvre, donc la proba que vous remboursiez est faible, eh bien, vous paierez le Libor plus une prime de risque élevée, spread de crédit, de environ 5%. Très bien, parfait. Vous dites 2%, 100 000 dollars, ma maison, vous y allez. La mensualité, vous n'avez qu'à faire un petit calcul tout bête. 2% de 100 000 dollars, ça vous fait. Non, pardon, c'est ça c'est, non, c'est 1% de taux d'intérêt. C'est ça, 1%, même pas de 1. 1% de 100 000 dollars, ça vous fait 1 000 dollars. Vous divisez par 12, ça vous fait 83 dollars par mois. Vous êtes pauvre. Pour une belle maison pour 83 dollars d'intérêt par mois, vous le faites. Donc 83 dollars, donc 100 dollars, j'ai mis ici. Et puis 2 ans après, arrive la période de changement, c'est-à-dire où vous passez d'un taux fixe, teaser, à un taux variable. Et là, entre-temps, les taux d'intérêt ont monté. Ils sont à un niveau voisin de 5%, le Libor US à 6 mois. Et vous avez un spread de crédit de 5. Donc 5 plus 5, ça fait 10. Là, il n'y a pas d'asymétrie d'information, c'est clair. 5 plus 5. Ça veut dire que vous passez d'un taux d'intérêt de 1% à un taux d'intérêt de 10%, 2 ans plus tard, 1 000 dollars. 1 000 dollars, c'est évidemment pas possible. Cette crise était donc parfaitement anticipable, tant au niveau micro, celui qui prêtait, qu'au niveau macro, le régulateur. Personne n'a rien vu. Enfin si, les banquiers savaient. Sauf que, comme vous le savez, ils titrisaient. Titriser, ça veut dire vendre son crédit. 80% des subprimes étaient titrisés. c'est-à-dire dans les semaines qui viennent, eh bien, vous fourriez le crédit à une structure qu'on appelle SPV, Special Purpose Vehicle, rien que le nom aurait dû inquiéter. Non. Un véhicule à objet spécial, personne ne s'intéresse à ce qu'il y a dans un véhicule à objet spécial, et on fait de la finance sur des milliards de milliards de dollars et dans des SPV. Bon. Un SPV, c'est un type qui va acheter le crédit qui ne sera pas remboursé, qui va en acheter plein comme ça, qui va les mettre dans des belles valises dans lesquelles, autour desquelles il va mettre un très joli nœud, s'il faut attirer des investisseurs quand même. Il va faire appel à des agences de notation, qui va payer bien sûr, d'accord, il n'y a pas de conflit d'intérêt, donc il va faire appel à des agences de notation qui vont mettre un beau ruban rose, puis vont fourguer ça à qui ? À des investisseurs qui ont des parts. Alors c'est là où l'explication macro a du sens, parce que l'Asie, enfin le fait qu'il y a un déséquilibre important des balances d'épargne courant fait qu'il y a un excès d'épargne quelque part, et donc ces gens-là sont attirés parce que c'est des actifs nouveaux, ça diversifie les portefeuilles, puis les rendements sont assez sympathiques. Pourquoi ils sont sympathiques ? Parce que une partie je ne rentre pas dans le détail des mécanismes de tranching sur la titrisation, mais une partie des tranches de titrisation, c'est-à-dire de ces fameux, la valise elle est découpée selon la qualité de risque, parce que tous les crédits ne vont pas faire défaut en même temps, donc vous émettez des obligations, dès qu'il y a un crédit qui fait défaut, le type il prend pour lui, donc le taux de rémunération est très élevé, et puis celui qui n'est pas remboursé, si tous les crédits de la valise ont fait défaut, et bien lui c'est quasiment un triple A, d'ailleurs c'était noté triple A par les agences de notation, donc sinon vous êtes sûr d'être remboursé. Mais vous aviez quand même une rémunération plus élevée qu'un triple A État, donc de l'Allemagne, parce qu'on préfère quand même avoir des obligations allemandes qu'une valise avec des trucs dont on ignore le contenu, mais dont une agence de notation payée par celui qui a fait la valise vous dit c'est un truc de très bonne qualité. Bon, donc 80%. Mais quand même, je ne vais pas m'arrêter là parce que, bon, il y avait autre chose, et ça c'est moins connu évidemment, asymétrie d'information. Et ça rejoint d'ailleurs la conversation sur la fameuse juste valeur ou fair value. Que faisaient les banques ? Les banques, elles octroyaient des crédits. Se foutaient complètement de savoir si elles étaient remboursées ou pas, car elles transféraient le crédit. C'est à l'air moral. Je maximise mon utilité sans prendre en compte les conséquences collectives de ma décision. Très belle illustration. Parfait. Puis, parfait. Si un jour les emprunteurs ne remboursent pas, c'est pas grave. De toute façon, j'ai vendu le crédit, j'ai fait ma marge d'utilisation. Et puis, elle rachetait une partie des obligations émises par le SPV, parce que pour acheter la valise, il fallait mettre des titres. C'est pour ça qu'on parle de titrisation, des obligations, par exemple. Et les banques, elles rachetaient une partie des obligations. Alors là, vous dites, mais je ne comprends plus rien. Elles vendent le crédit, puis elles rachètent sous forme obligataire, enfin, sous forme d'une obligation. Donc, c'est la même chose. Non, pas du tout. C'est que quand vous avez un crédit, c'est là où la micro est fondamentale. Et là où, donc, quand on a fait des programmes avec Jean, avec Alain Béton, etc. On a dit, faut aller dans la micro. Le bilan, c'est très important, dès la seconde, dès la première, de savoir. Pourquoi ? Parce que un crédit dans une banque, quand une banque fait un crédit fait des dépôts, cours de monnaie, d'accord ? Un crédit, c'est pas valorisé à la juste valeur. C'est-à-dire, vous prêtez 100, et puis, avant que le mec vous rembourse, ça vaudra toujours 100. Vous dites pas, ah tiens, je pense qu'il a plus de chances de me rembourser qu'hier matin, donc son crédit, je le mets à 110, parce que j'ai plus de chances qu'il soit remboursé. Non, vous le laissez à 100, indépendamment du fait que la proba de remboursement évolue. Bon, si vraiment le type, vous êtes sûr de ne pas rembourser ou passer des provisions, mais en règle générale, on laisse comme ça. Quand vous achetez une obligation, elle est faite à la juste valeur. C'est-à-dire que vous l'évaluez à son prix. Et là, en juste valeur, vous avez deux solutions. Soit il y a un prix de marché, c'est-à-dire que BNP Paribas, ça vaut 35, vous valorisez 35, soit il n'y a pas de prix de marché. Et à ce moment-là, la réglementation comptable, qui est aussi coupable, car il y en a des coupables, la réglementation comptable vous dit, quand il n'y a pas de marché, la juste valeur n'est pas le prix de marché, mais c'est ce qu'on appelle le prix de modèle, le mark-to-model. Donc la banque fait sa valorisation, tamponnée par les commissaires aux comptes, qui sont des grands spécialistes de la titrisation, payé par ceux dont ils portent d'ailleurs les comptes. Et donc, en fait, vous valorisez comme vous voulez. Alors, que faisaient des banques ? Elles ont joué un jeu incroyable, quand même. Elles ont joué au jeu suivant. Je prête subprime. Je transfère. Je n'ai pas de risque. Je rachète une partie sous forme d'obligation titrisée. Et je rachète ça 100. Mettons, je prête à un emprunteur subprime 100. Je titrise 100 et je rachète 100. Et puis je dis, oh là là, j'ai l'impression que ce portefeuille il vaut plus que 100 parce que les gens qui j'ai prêté quand même, ils ont plus de chances de me rembourser. Et puis je crois que le marché de l'immobilier va monter. Donc de toute façon, même si ils font défaut, la valeur de mon portefeuille est très élevée, parce que je suis quasiment sûr d'être remboursé. Je vendrai la maison. Alors, je pense que ça vaut 120 maintenant. Alors, je vais vous dire autre chose, c'est que le prix d'un portefeuille de crédit, ce qu'on appelle un CDO, hein, une obligation là, ça dépend non seulement de la probabilité de défaut de chaque emprunteur, mais ça dépend aussi de la corrélation entre les événements de défaut, qui est un truc complètement non observable. Vous comprenez bien que si tout le monde fait défaut en même temps, et ils habitent tous le même endroit, ils ont tous le même métier, etc., le prix du portefeuille vaut moins cher que s'il y a une diversification des risques. Alors vous pouvez dire, je crois qu'ils sont plus diversifiés qu'avant, et donc ce que j'ai viens d'acheter 100, je le valorise 120. Le commissaire aux comptes, qui est un grand spécialiste, va tamponner. Sauf que vous avez acheté 100 et que vous le valorisez en prix de modèle 120 et que vous avez gagné en résultat 20. Car les variations de prix de modèle vont dans le résultat des banques. Et sur les 20, vous avez votre bonus, votre coussin, votre machin. Ça s'est fait beaucoup. C'est ce qu'on a appelé de l'arbitrage réglementaire. Les types sont malins. Ils sont malins. Ils jouent sur le traitement à l'époque de Bâle 2, d'où Bâle 3, qui était insuffisant. C'est-à-dire Bâle 2... la réglementation comptable vous autorisait en fait à valoriser au prix de modèle des actifs que vous aviez transférés de votre bilan. Donc ça valait 100, vous le vendez, vous le rachetez, vous dites ça vaut maintenant 120 et j'ai gagné 20. C'est totalement légal, c'était parfait. Je veux dire, c'était, sont des types très intelligents. Bien, alors voilà, ça c'est la mécanique que chacun connaît de la titrisation. C'est l'occasion de rappeler à vos élèves en bas à gauche que les crédits font les dépôts. Ensuite, asymétrie d'information, vous vendez vos crédits à une structure SPV qui émet des obligations ou d'ailleurs des titres à plus court terme, RMBS, Residential Mortgage Backed Securities. Ces obligations, elles peuvent être achetées aussi par des fonds qui émettent ce qu'on appelle des CDO. Donc un CDO, c'est quoi? C'est un panier de titres obligataires qui sont eux-mêmes des paniers de crédit. Ensuite, il y a eu des CDO carrés dans le montage de la titrisation, c'est-à-dire des structures qui achetaient des CDO, qui étaient des grosses valises, qui étaient un portefeuille de petites valises, qui étaient un portefeuille de plus petites valises, c'est un portefeuille de prêt. Et puis nous sommes même allés à CDO cubes. Donc vous imaginez que l'investisseur chinois qui achète des CDO cubes, il a une grande idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais il est sauvé par les agences de notation qui l'ont dit, ne t'inquiète pas, c'est du triple A. Bien. Et aléa morale, je veux dire, est-ce que les agences de notation ont supporté les conséquences? Il faut quand même voir qu'elles ont été nullissimes. Là, après Enron, d'ailleurs, elles ont été aussi pas très glorieuses. Je rappelle que quand Enron a fait faillite, ils étaient nommés triple A. Donc, vraiment, on supporte les conséquences collectives de ces décisions quand on est une agence de notation. Bon, voilà, ça c'est le schéma de la titrisation. Et j'ai mis où est Charlie, vous avez dû apprendre ça, ou lire ça, ou vous le faites en ce moment. Bien. Alors, la titrisation, elle repose sur l'asymétrie d'information, je crois qu'on l'a bien vu, entre l'investisseur et le structureur, mais aussi entre le structureur et le contrôleur des risques. Je vais vous donner tout à l'heure un truc, vous allez voir, c'est très drôle. Entre le structureur et le comptable, je vais donner un exemple, entre le structureur et le régulateur. Parce qu'honnêtement, le régulateur, il aurait dû voir. Sauf que le régulateur, il ne s'intéressait pas au risque privé, c'est ce qu'on appelait le shadow banking, hein, la banque fantôme. C'est-à-dire, en fait, c'était des véhicules déconsolidés qui ne rapportaient à personne, c'est-à-dire il n'y avait pas d'autorité réglementaire. Donc ça a changé, puisqu'aujourd'hui, les SPV sont obligés, sont rattachés, sont obligés de donner leur bilan aux autorités de régulation compétentes, en France, l'ACP, l'autorité de contrôle prudentiel. Bon, ça c'est un peu... Oui, quand même, je vais vous montrer un truc. La défaillance du contrôle des risques, ou la complicité du contrôle des risques. Regardez, le schéma de gauche, c'est la montée de l'immobilier aux États-Unis depuis 90. D'où le fait que personne ne se souciait dans le contrôle des risques du fait qu'il y avait un problème sur les subprimes. Parce que, de toute façon, si les emprunteurs ne remboursaient pas, on revendait la maison. Et comme ça ne faisait que monter de manière exponentielle depuis 10 ans, il était évident que ça allait continuer de monter. Et bien, bon. Et puis à droite, vous avez l'évolution des taux d'intérêt depuis 2005. Et la crise est arrivée en 2007. Vous voyez bien qu'elle est arrivée au moment où les taux d'intérêt avaient monté. En bas du schéma à gauche, vous voyez probablement pas un truc qui est quand même assez extraordinaire, qui est une phrase que j'ai extraite du rapport annuel de Citigroup, une petite banque d'investissement, sur justement le risque qui était associé à l'immobilier. Et je l'ai mis en gros quand même, parce que quand on parle d'asymétrie d'information et de la compétence du contrôle des risques, Citigroup December 5 reporte Iscotted Asset Rating, donc 2005, ils vous disent le risque d'un déclin national des prix de l'immobilier apparaît remote, c'est-à-dire vague, lointain, ça n'existe pas. Et quand même, ils ont un argument très fort. Pour tous ceux qui font du contrôle des risques, c'est que l'indice annuel de l'immobilier n'a jamais été négatif depuis 1992. Donc c'est assez fort quand même, hein. Je veux dire, c'est des gens bien payés, ça fait que monter depuis 10 ans, donc il n'y a pas de risque, ça baisse. En effet, c'est une très bonne idée. Alors quand même, comme je me suis dit, c'est pas possible, Citigroup, rapport annuel, document sur internet, c'est impossible. Donc remote, moi j'ai fait allemand première langue, et j'ai dit pour vous, pour les profs allemand première langue comme moi, peut-être remote, on se trompe, quoi. Et bien, malheureusement, on se trompe pas. Ça veut bien dire distant, éloigné, vague, voilà. Donc dans les banques d'investissement, on vous dit il n'y a pas de risque sur les subprimes, parce que de toute façon, ça a monté depuis 10 ans, ça va continuer de monter. Donc il y a quand même quelque part aussi la défaillance du contrôle des risques. Mais là encore, si vous voulez, on est sur des explications micro, on est bien loin de la macro. J'ai pris ça aussi sur le site du New Yorker. Vous savez qu'il y a une commission d'enquête pour ceux qui sont des passionnés de la crise financière. Vous allez sur le site, il y a une commission aux États-Unis où ils ont interrogé des milliers de gens sur leur explication. Et le journaliste du New Yorker dit un truc absolument incroyable. Il dit un des plus grands moments de cette commission, ça a été lorsque le chief executive officer, le numéro 1 d'une petite banque d'investissement, là c'est pas Citigroup, c'est une autre, c'est JP Morgan, a déclaré que sa banque n'avait jamais testé son portefeuille contre la possibilité que les prix de l'immobilier puissent baisser. C'est quand même assez intéressant, non ? Donc, il n'y a pas que Citigroup, il y a Morgan aussi, se dit ça fait de monter, voilà. Et donc, le commentaire du journaliste, c'est que si Morgan n'a pas étudié le risque d'une baisse de l'immobilier, je pense que toutes les autres banques n'ont pas non plus mesuré ce risque. Et donc, vous comprenez aussi la crise des subprimes. Je vais quand même vous faire un petit truc, parce que ça me paraît important. Dans la crise des subprimes, il y a autre chose, la fameuse crise de liquidité. C'est que quand vous transférez votre crédit à un SPV, vous êtes une banque, vous prêtez 100, vous en foutez, vous ne regardez même pas. D'ailleurs, ça pose une autre question, qui finance l'économie. J'ai entendu qu'il y avait un débat sur le financement, ce n'est pas tout à fait le cœur du débat, mais la grande question, c'est est-ce que ce sont les banques, est-ce que ce sont les investisseurs, et en gros, vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est les fonds qui financent, enfin aujourd'hui non, mais pas en termes macro encore, mais enfin, en France, on reste quand même intermédiaire plus que marché, mais la tendance est quand même à l'inverse. Et donc, si vous en foutez, c'est-à-dire la banque, elle devient un broker. Il suffit qu'il y ait un fauteuil très joli en velours rouge, et vous dites, je vous prête. Oh, il n'est pas bon, je transfère. Donc vous transférez les 100 dans un SPV. Mais le SPV il était financé soit par des émissions de titres long terme, donc là il n'y avait pas de risque de liquidité, soit par des émissions de titres à court terme. Et il y en a eu beaucoup avec ce qu'on appelle du commercial paper, c'est-à-dire du papier à 6 mois. C'est-à-dire que vous financez des crédits 10 ans avec des investisseurs qui vous prêtent à 6 mois. Là, bah, tiens, je t'achète ton truc, c'est pas mal. Donc, bon. Puis à un moment donné, au moment où tous les trucs s'effondrent, les prêts sont plus remboursés, ben évidemment, vous ne trouvez plus d'investisseurs. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Tous les crédits reviennent dans la banque. Et c'est là où il y a un problème. D'accord ? Donc ça, c'était le risque de liquidité qui avait été vu par personne non plus. Bâle 3, aujourd'hui, traite différemment de titrisation. Bon, là, franchement, il va falloir que... Oui, alors, juste quand même... Je dis juste beaucoup de fois, mais j'ai quand même en tête que normalement, il faut que je m'arrête un quart d'heure avant 10h30, ce qui n'est plus possible. Mais c'est quand même un truc intéressant. Regardez, ça, en ordonnée, vous avez, c'est des 120 milliards, 100 milliards, c'est le montant des prêts subprimes qui arrivaient à l'expiration de la période des 2 ans. Vous savez, quand vous passez de $100 à $1000, et où la crise naît. La crise, elle est née, vous rappelez, au printemps 2007. Donc ça veut dire qu'il y a eu plein de prêts subprimes qui ont été délivrés en 2005. On a établi après justement la séquence des flux de passage. Hein, ça s'appelle la bombe à retardement, transformation programmée des prêts immobiliers à taux fixe en taux variable aux États-Unis. Et vous apercevez que c'est bien fin 2007, début 2008 que vous arrivez dans une période où vous avez tous ces prêts qui vont passer ou tous ces pauvres ménages individuels de 100 à 1000 et qui vont faire défaut. Et la crise, elle est là. Et un régulateur aurait eu cette information-là. Il aurait dit, oh là là, il est en train de se passer un truc. Fin 2007, début 2008, il y a une bombe. Il aurait pu, en fait, éventuellement, je ne sais pas comment, mais en tout cas, prendre conscience avant de la situation. En tout cas, voilà. Ça, c'est quand même des données qui sont intéressantes. Bon, je vais terminer mon exposé. Je vous ai tout à l'heure parlé du mark-to-market, du mark-to-model. Pour moi, c'est un sujet fondamental, c'est celui de la juste valeur dans les bilans des banques. Je termine. Une banque d'investissement, pas une banque de dépôt, une banque d'investissement, son actif, c'est des portefeuilles, enfin, c'est des actifs dérivés ou pas dérivés, c'est des actions, des titres de taux d'intérêt, donc des obligations, des matières premières et des devises. Donc voilà. Une partie est évaluée. Alors, la réglementation comptable, les fameuses normes IFRS, vous oblige à valoriser votre portefeuille quand vous êtes une banque d'investissement à ce qu'on appelle la fair value, qui est encore une autre expression comme moral hasard complètement ridicule, parce qu'on vous dit, en français, c'est la juste valeur. Comme si on pouvait donner comme recommandation d'évaluer à la mauvaise valeur. Enfin, déjà ça, les gens sont là, oui, il faut faire à la juste valeur. Ah non, 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 mauvaise valeur. Bon. Donc, juste valeur, très bien. Une fois qu'on a dit ça, les comptables sont contents, les régulateurs sont contents, et on fait à la juste valeur. Puis après, on se pose une question, c'est quoi la juste valeur ? Alors pour les Américains, en tout cas pour ceux qui font les normes comptables, il y a deux institutions dans le monde qui sont l'IASB et le FASB, la juste valeur c'est le prix de marché. C'est les institutions qui sont anglo-saxonnes, et pour elles, la juste valeur c'est le prix de marché. Donc vous valorisez, quand il y a un marché, vous valorisez. C'est le marché liquide. Et puis quand le marché n'est pas liquide, c'était le cas de toutes ces fameuses clauses titrisées, vous remplacez le prix de marché par un prix de modèle. Et là, le prix de modèle, il y en a deux. Soit vous pouvez établir un prix de modèle sur la base de paramètres observables, ça s'appelle le niveau 2, soit vous, quand les paramètres ne sont pas observables, par exemple un CDO, c'est-à-dire un CDO, un portefeuille de crédit, ça dépend de la probable défaut, c'est non observable, ça dépend de la corrèle entre les défauts, c'est pas observable, et ça dépend du taux de recouvrement en cas de défaut, c'est-à-dire de la valeur de la maison, ça vous pouvez faire éventuellement des estimations. Enfin, largement, c'est des produits niveau 2, niveau 3. Et donc vous faites du modèle et ça doit être évidemment validé par le commissaire aux comptes. Alors à votre avis, quelle est la stratégie des banques ? Bah, acheter des actions BNP 35 et dire demain matin ça vaut 35 ou 36 ou 37, on sait bien, mais bon. Il vaut mieux acheter des trucs que personne ne sait évaluer, donc vous donnez votre propre évaluation, contre-valorisée par des gens dont l'expertise est moins forte que la vôtre, parce que tout ça c'est la symétrie d'information. D'accord ? Et puis vous dégagez des résultats. Alors vous allez me dire, oui, d'accord, mais quand même, vous êtes mauvaise langue, c'est pas comme ça que ça se passe. D'accord. Vous avez compris que si c'est comme ça que ça se passe. Bon. Alors, ça c'est autre chose, mais c'est intéressant, mais c'est pas ça. Ça c'est niveau 1, niveau 2. Donc négocier sur un marché liquide, je fais monter la pression, c'est le tableau que vous allez voir, attention extraordinaire. C'est quoi le tableau ? Dans le rapport de Goldman Sachs, trimestriel, Goldman Sachs publie ses résultats trimestriels, c'est toujours Goldman Sachs. Hein. Ils ont la décomposition de leur portefeuille de dérivés, enfin de leur portefeuille d'actifs au bilan, par niveau. Niveau 1, c'est fait au prix du marché, donc c'est vérifiable, contrôlable, on ne peut pas tricher. Quoi. Si Goldman dit j'ai acheté BNP 35 et ça vaut 800, dit, ah non, non, le commissaire en compte dit ah non, c'est faux, ça, hein, ça vaut 35, j'ai même regardé sur le Figaro il y a une semaine. D'accord, donc c'est contrôlable. Prix de modèle niveau 2, c'est discrétionnaire. Et alors niveau 3, c'est vraiment ce que je veux. Le portefeuille de Goldman, c'est 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars. Je vous invite maintenant à réfléchir et à imaginer ce que peut être pour vous la répartition chez Goldman Sachs de ce qui est valorisé de manière contrôlée, c'est-à-dire au prix de marché, de ce qui est valorisé au prix de modèle. Vous faites c'est juste 2%, la somme doit faire 100, et vous réfléchissez, et vous avez la 1, et je vous donne la réponse. Eh bien, en septembre 2011, et ceci est sur Internet, les prix de marché, c'est-à-dire, alors c'est malheureusement décalé, hein, c'est-à-dire que quand j'ai fait mon truc, le level 1, ça représente 0,015% de la valeur des actifs chez Goldman. Le total de la valeur des actifs, c'est 991 milliards, donc c'est à peu près 1000 milliards d'actifs chez Goldman. Dans son bilan, il y a 1000 milliards d'actifs qui se répartissent, on n'avait pas tort, en à gauche taux d'intérêt, crédit, c'est les fameux créances titrisées, entre autres. Enfin, c'est les créances titrisées, c'est pas les crédits octroyés, c'est les crédits octroyés bêtement. Eux, ils sont valorisés au prix auquel vous les avez prêtés. Non, vous avez prêté, donc il n'y a pas de problème. Les devises, les commodities, les equities, et tout ça, ça vous fait 991, donc 1000 milliards. Là-dessus, regardez, qu'est-ce qui est au prix de marché ? 141 millions, 0,015. Tout le reste, 99 niveau 2 et 3, et j'attire votre attention sur un chiffre. Ce qui est niveau 3, c'est-à-dire ce qui est incontrôlable, et ce qui est dans les textes écrits par paramètres, prix de modèle sur la base de paramètres non observables, représente 18 milliards de dollars. 18 milliards. On va dire, bon, et alors, vous voyez, 180, on n'aura pas plus réagi, ou 1 milliard, vite, non. D'accord, 18 milliards. Là, on peut réagir, c'est la chose suivante. C'est dit, comme c'est une évaluation discrétionnaire dans le bilan, 18 milliards. Vous pouvez mettre plus ou moins 10%, hein. Enfin, je veux dire, qui verra, le commissaire aux comptes, qui a fait une école de gestion et qui a 22 ans et qui va contrevaloriser le portefeuille de CDO, pas vraiment. 18 milliards. Donc vous dites, allez, 10%, ça fait 1,8 milliard. Le résultat trimestriel de Goldman, c'était 1,7 milliard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 10% sur une toute petite minuscule partie de votre portefeuille de dérivés fait votre résultat. Si vous voulez mettre 3 milliards 4, 10 milliards, moins 500 millions en fonction de la communication que vous voulez donner, eh bien, vous avez là, ici, une marge de manœuvre. Alors vous allez dire, mais quand même, ça vous invite à voter Mélenchon, là, c'est incroyable. Qui ont-ils invité? Pas du tout, je suis membre du conseil scientifique de l'autorité contre-prudentielle. Et Monsieur Jean-François Le Petit, ancien président de l'AMF, a fait pour Christine Lagarde un rapport en ligne sur Internet sur le risque systémique. Et il partage absolument ce diagnostic en disant qu'en réalité, s'il fallait taxer les banques, il faudrait taxer ce fameux portefeuille niveau 2, niveau 3, qui est valorisé de manière discrétionnaire et qui fait les résultats des banques. Car c'est le business model des banques de structurer des produits qui ne sont pas liquides et donc de les valoriser à sa propre méthode. Et Jean-François Le Petit, bon, quand même, qui a été président d'Indosuez, qui a été donc président de la COP, président de l'AMF, qui est encore, je crois, aujourd'hui dans le conseil d'administration de BNP Paribas, donc c'est-à-dire, c'est pas révolutionnaire. Il a ce petit tableau-là dans son rapport remis à Christine Lagarde, dans lequel il fait la répartition, lui aussi c'est un obsédé de cette répartition niveau 1, niveau 2, niveau 3, sur l'ensemble des banques mondiales, et vous voyez quand même que le niveau 1 est dans toutes les banques extrêmement marginal par rapport aux autres niveaux. Et qu'il y a là terreau d'aléas morales. Je veux dire, à partir du moment où en fait vous entrez dans le résultat des évaluations que vous faites vous-même, bah ça se termine soit bien pour vous parce que vous quittez avant que ça aille mal, soit à un moment donné, ce que vous allez valoriser 102 vaut 0, vous ne serez plus là, et dans le pire des cas, vous aurez un résultat, un bonus de 0. Conclusion, c'était celle de Jean-François, le petit, qui propose dans son rapport à Christine Lagarde que l'assiette de portefeuille dérivé niveau 2, niveau 3, soit l'assiette d'une taxe. Et ce que j'ai déjà écrit, c'est qu'il me paraîtrait plus logique d'appeler cette fameuse taxe une taxe pigou, parce qu'en fait, elle est à l'origine d'externalités négatives. Le comportement des opérateurs risqué, le comportement risqué des opérateurs est assimilable à une externalité négative. Et donc, il faut taxer ceux qui produisent ces externalités, c'est-à-dire ceux qui travaillent sur les desks de dérivés de niveau 2 et niveau 3. C'est pas une taxe Tobin, c'est une taxe pigou, en fait, qui pour moi serait plus adaptée, c'est-à-dire en fait qui s'adresserait à ceux qui produisent des externalités négatives. Voilà. Je pense largement dépasser le temps, mais je suis ouvert si Jean me donne encore une minute à répondre à des questions que vous pourriez me poser auxquelles je serais répondre. Au passage, dans la logique, on nous dit fréquemment que tout va bien, le risque systémique est sous contrôle parce que on a procédé au fameux stress scénario. Vous savez, on stresse les banques, et puis on dit est-ce qu'elles sont capables encore d'exister dans des scénarios de stress. Mais moi, que je communique d'ailleurs aux autorités de régulation, ma crainte objective, scientifique, c'est que quand vous prenez Goldman, dont 99% du bilan est valorisé à un prix de modèle, quand vous stressez, c'est-à-dire vous allez dire oui, ça perd 50% de sa valeur, mais vous partez de quelle assiette ? Si vous êtes parti d'une assiette de surévaluation de 500%, il ne se passera rien. Le problème, il est là, c'est qu'on stresse des valeurs dont on n'a aucune idée, savoir si elles correspondent à la réalité ou si c'est juste des valeurs qui ont été mises pour asseoir des résultats. Donc, je pense que là, il y a un vrai sujet. Donc, j'avais fait un rapport sur le sujet, et dans mon rapport, je propose. proposait que les autorités, enfin que les banques puissent émettre des produits structurés sous réserve, un peu comme pour les médicaments, même si c'est pas toujours le grand succès, mais sous réserve en fait d'un accord d'une autorité d'agrément des produits structurés. Un, est-ce qu'on est capable de valoriser ces produits structurés une fois qu'ils ont été émis, qu'ils sont dans le bilan des banques ? Oui, non. Est-ce que c'est du niveau 3 ? Donc interdire le niveau 3. Si c'est du niveau 2, est-ce qu'on est à peu près, il y a une marge, un intervalle de confiance relativement limité sur l'évaluation ? Quand vous proposez ça, vous avez le lobby bancaire qui vous dit qu'il sait, c'est pas sérieux. Enfin, ils vous disent pas ça, ils vous disent c'est vachement bien comme proposition, sauf qu'on peut pas le faire parce que les États-Unis le font jamais. Et si les États-Unis le font jamais, nous on est obligé de le faire. Et puis d'ailleurs, moi je peux le faire tout de suite par BNP New York. Donc, donc ça veut dire que la régulation, elle ne peut pas être domestique, locale. Elle doit être nécessairement internationale. Et faire admettre au monde anglo-saxon qu'il faut réguler l'émission de produits structurés, c'est un grand, grand combat. Également, vous allez me dire, mais qui fait les normes comptables ? Moi j'ai découvert ça. Pour moi, la normalisation comptable, c'est un exercice public. Enfin, c'est une responsabilité publique, comme faire des lois. Les États, auparavant, établissaient les normes comptables, le fameux marteau, la juste valeur. Et puis en fait, à un moment donné, ils ont dit que ça coûtait trop cher. Donc ils ont dit, on va externaliser, déléguer la normalisation comptable à des entités, si ce n'est pas public, c'est donc privé. Et qui d'entité privée dit financement privé ? Et qui finance le FASB et l'ISB, à votre avis ? Les commissaires aux comptes. Les banques d'investissement. Goldman Sachs. Donc Goldman Sachs, en fait, fait des normes comptables, et des normes comptables qui, en effet, conviennent assez bien à son évolution et à l'obtention de résultats satisfaisants.
Vous pourrez pas vous dire que la recette, je crois que le début sur la Grèce,
l'intérêt du swap de devise, un intérêt, ça aurait été un swap de devise normal, c'est-à-dire en fait sans échange de capital au départ.
Est-ce qu'un intérêt de swap de devise normal a un
non.
Swap de devise normal avait un intérêt.
Oui, alors le seul intérêt qu'on fait à swap de devise, si c'est pas un swap de devise normal, donc sans recevoir au départ ces fameux soult, d'accord, qui leur a permis d'emprunter de manière dissimulée, on est bien d'accord là-dessus. Si elle fait juste un swap, quand est-ce qu'on fait un swap de devise ? On fait un swap de devise pour essayer de gagner sur le change. C'est-à-dire ils étaient en dollars et en yens. S'ils avaient pensé que le dollar et le yen versus euro allaient progresser dans les années qui viennent, ils avaient plutôt intérêt à passer à l'endettement euro, c'est-à-dire dans leur monnaie nouvellement domestique. Vous faites un swap de devise, par exemple, moi je suis une entreprise française j'emprunte en dollars, j'ai bien le droit d'emprunter en dollars, c'est-à-dire je paye des taux d'intérêt en dollars et puis je rembourserai ma dette en dollars. Donc j'ai un risque de change. Si le dollar monte contre euro, je perds l'argent. Mon anticipation est que précisément le dollar va baisser. Vous savez qu'il y a plein de gens qui ont fait ça. Attendez, je restructure ma réponse. Les swaps de devises normaux ont été faits par les entreprises, le dollar est un mauvais exemple, sur le yen beaucoup. Pourquoi ? C'est un truc tout bête. Les taux d'intérêt yen, je vous apprends rien, sont beaucoup plus bas que les taux d'intérêt à l'époque sur le franc français, le marque, la guerre italienne, etc. Aujourd'hui, vous empruntez à 10 ans en yen à 1%. Vous empruntez en 10 ans en euros à 3%. Vous êtes un industriel, un directeur financier. Vous dites, vous faites votre budget, vous n'avez pas de flux en yen, vous avez donc intérêt à vous endetter, vous endettez en euros normalement. Mais vous dites, oh là là, les taux d'intérêt yen sont à 1%, si je m'endette en euros, c'est 3. Je peux gagner 2% par an en m'endettant en yen, dans mon budget. Le type intelligent, il dit, oui, mais attendez, si tu t'endettes en yen, dans 10 ans, il faudra rembourser en yen. Vous endettez en yens, vous vendez les yens contre des euros, vous financez votre activité en euros, mais vous payez 1% de yens chaque année, au lieu de 3% dans votre budget, vous avez compris, et puis à l'échéance, eh ben, vous rembourserez en yens. Toute la question est de savoir si en fait le yen ne se sera pas apprécié contre euro de plus que le différentiel des taux. Aléa morale, c'est aussi le problème de l'horizon de gestion dans les entreprises, qui est un vrai sujet. Le type qui dirige les finances d'une boîte, il a une durée de vie dans la boîte plus courte que celle de sa dette. Ça, c'est sûr. Dans 10 ans, il ne sera plus là. Qu'est-ce qu'il a intérêt à faire ? Il a intérêt à maximiser son utilité individuelle en empruntant 1% en yen contre 3%. La boîte va avoir une compétitivité accrue à court terme. On va trouver que ce type est extraordinaire. C'est un type qui contrôle les frais financiers. Vous vous rendez compte ? Il est fantastique. Sauf que le yen va monter peut-être de plus que du différentiel de taux cumulé sur 10 ans, c'est-à-dire de 2% par an pendant 10 ans cumulé, ça fait 25%. Et là, l'opération ex post aurait été extrêmement négative. Sauf que le titre ne sera plus là. Il y a aussi un problème qui est le décalage entre l'horizon de gestion de celui qui prend la décision et l'horizon des instruments qu'il utilise. Et il y a eu beaucoup d'entreprises qui se sont endettées en yens alors qu'elles n'avaient aucun besoin de yens, uniquement pour bénéficier à court terme d'un différentiel de taux d'intérêt. Alors monsieur, je réponds à votre question. Vous endettez en yens, alors comment vous pouvez vous endetter en yens? Vous endettez en yens, d'abord. Vous vendez les yens contre les euros et vous avez vos euros. Donc c'est un moyen de s'endetter en euros, mais en passant par le yen, d'accord? Vous payez les intérêts en yen et à la fin, vous remboursez en yen. Première solution. Deuxième solution, vous vous endettez en euros. Normal, vous allez voir BNP Paribas, j'ai besoin de 100 millions d'euros. Dans la foulée, vous faites un swap de devise. Payeur yen, receveur euro. C'est-à-dire, vous empruntez dans le swap de devise en capital le yen, vous prêtez les euros, et puis vous recevrez les euros dans le swap de devise, qui vous permettront de payer les intérêts de votre endettement en euros. Et finalement, vous allez vous retrouver endetté en yen. Si vous voulez un endettement euro plus un swap de devise payeur yen, receveur euro, c'est pareil que de s'endetter en yen. Donc il y a deux manières. Soit vous endettez directement en yen, soit vous endettez en euro et vous faites un swap de devise. Le problème d'un swap de devise, c'est que vous avez à rembourser une dette dans une devise différente de la vôtre. Le problème, il est là. Et en compta, on voit rien. En compta, on voit que vous avez gagné 2% par an. C'est ça le sujet. C'est ça. Et quand je dis que cette crise, on doit la lire de manière micro, c'est que si on ne connaît pas tous ces trucs-là, on passe à côté, à me semble-t-il, de tout, ou presque tout. Voilà. Et donc, le swap de devise, il est fait, malheureusement, pour pouvoir bénéficier à certains moments d'un différentiel de taux entre monnaie attractive, parce que tout le monde a oublié la parité des taux d'intérêt de Keynes. Et la parité des taux d'intérêt de Keynes, je dis moi toujours à mes étudiants que l'espérance de variation du cours de change est égale au différentiel cumulé de taux d'intérêt. Et que Keynes nous a appris, ce qui est assez logique, que s'endetter dans une devise plutôt que dans une autre, eh bien, ça devait revenir au même. Parce que la devise dont les taux d'intérêt bas doit s'apprécier, la devise dont les taux d'intérêt élevés doit se déprécier. Alors, tout ça est une espérance. Donc peut-être que vous gagnerez plus en change qu'en taux. Oui, si le yen se casse la figure, double jackpot. Le seul problème, c'est que vous ne serez pas là de toute façon, vous. Parce que votre horizon n'est pas horizon. Vous savez, je travaille en ce moment avec la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts m'a interrogé sur un sujet important qui est celui du long terme. Ils sont venus me voir et m'ont dit, attendez, nous sommes un investisseur de long terme. On a, pour financer les États, de la dette grecque, italienne, portugaise. On est là pour soutenir les États, les financer à long terme. Pas pour revendre la grecque, l'oblique demain matin. Or, la règle comptable, les normes IFRS, vous oblige, la dette grecque c'est à peu près liquide, enfin c'est pas très liquide, mais enfin, mettons de la grecque, la dette italienne c'est liquide, à prendre le prix de marché. Mais la Caisse des dépôts dit, mais attendez, le prix de marché, je m'en fous complètement, je veux pas vendre mes trucs. Or, en fait, quand vous avez une obligation, dans un taux d'intérêt, taux, vous avez maintenant trois éléments. Vous avez le taux sans risque, même si on ne sait plus très bien ce que c'est que le taux sans risque, le spread de crédit qui rémunère la probate défaut. Et puis vous avez le spread de liquidité. Si personne ne veut aujourd'hui de la dette italienne va s'effondrer sur les marchés. Elle ne vaudra rien. Non pas parce qu'on pense que l'Italie va faire défaut, mais parce que personne ne veut avoir de la dette italienne dans son portefeuille. C'est autre chose. C'est un spread de liquidité. Donc dans un taux d'intérêt, il y a trois morceaux. Taux sans risque, spread de crédit, spread de liquidité. Et la Caisse des dépôts dit, moi, le spread de liquidité, je m'en fous, je ne veux pas le payer. Vous me dévalorisez dans mon bilan les obligues, alors qu'en réalité, je ne veux pas vendre ces obligues. Donc, je ne devrais intégrer, pour évaluer mon oblique, que le taux sans risque et le spread de crédit, la probable défaut de l'Italie, pas le spread de liquidité. Il y a aujourd'hui une vraie problématique sur l'horizon de la gestion. Je crois que c'est un vrai sujet, on n'a pas assez réfléchi collectivement sur cette question de l'horizon du temps et en particulier du décalage entre l'horizon de gestion et l'horizon des instruments que vous utilisez. Bon, c'est le café ou... Non, c'est pas le café, je me suis avancé. C'est la pause sans café.